dans nos Bibles à l'évangile de Jean, chapitre 14. Nous sommes le soir avant la crucifixion de notre Sauveur. Nous sommes dans la chambre haute, dans l'intimité. Judas Iscariote est parti. Ce que tu dois faire, fais vite, dit le Seigneur. Et nous sommes à l'écoute des paroles les plus douces et les plus profondes jamais prononcé du Dieu vivant à l'homme. Nous lisons versets 1 à 4 tout simplement aujourd'hui dans le chapitre 14. C'est le Seigneur qui parle. Que votre cœur ne se trouble pas, puisque Jésus disait qu'il allait partir. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit. Car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. Nous sommes en route, nous, et notre destin est glorieux. Mais malheureusement, nous le perdons de vue trop souvent. Et lorsque nous perdons de vue notre destin glorieux, nous ne pouvons plus vivre dans la réalité. Parce que celui qui n'a plus en vue son destin ne peut plus connaître son chemin. Et le Seigneur nous dit quatre choses aujourd'hui au sujet du paradis, de la demeure céleste que nous aurons auprès de lui si nous sommes chrétiens. Et la première chose, c'est que le paradis, c'est là où notre Père céleste a sa demeure avec sa famille. Nous, chrétiens, nous avons tendance à évoquer deux choses différentes quand nous parlons du ciel. Moi, je parle du ciel, pas simplement le ciel physique, mais du ciel. Nous parlons à ce domaine qui existe en ce moment, ailleurs, le ciel, la demeure du Père, qui n'est pas ici, mais qui est quelque part. Mais aussi, quand nous parlons du ciel, nous évoquons parfois le monde nouveau que Christ va inaugurer à son retour. Et les deux choses sont extrêmement liées. Parce que la Bible a les deux façons de parler. Regardez d'abord, le ciel, monde ailleurs, est présent. Écoutez, Deutéronome 26. « Regarde de ta demeure sainte des cieux et bénis ton peuple d'Israël et le pays que tu nous as donné. » Vous voyez? Regarde depuis cet endroit présent, actuel, ta demeure sainte, regarde de là, ici. La Bible en parle parfois comme ça. Mais écoutez ce verset. Apocalypse 21. Et je vis descendre le ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, une fois que le ciel descend sur la terre, okay, le paradis n'est plus ailleurs, mais le paradis et le monde nouveau sont une seule réalité, un seul endroit. Il dit, et j'ai entendu une voix forte qui disait, voici, maintenant que le ciel est descendu sur terre, voici le tabernacle de Dieu, la demeure de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Donc voilà un moment où le ciel ne sera pas ailleurs, mais le ciel sera le ici et le maintenant de tous les rachetés. Je suis en train de vous donner une petite introduction. Nous sommes en train de dire que le paradis, c'est là où le Père demeure, à sa demeure, avec sa famille. Mais il faut que je vous dise une ou deux choses pour que vous soyez au clair, parce que parfois nous avons des idées un peu confuses. Le ciel dont je vous parle aujourd'hui est bien un endroit. Même en ce moment, c'est un endroit. Ce n'est pas simplement un état d'être, c'est un endroit. C'est quelque part où on pourrait se rendre. Maintenant, je ne vous dis pas que le rapport entre les êtres au ciel et la physicalité de l'univers est le même que le nôtre. C'est mystérieux, Jésus passe à travers les murs et c'est différent. Nous ne savons pas. C'est céleste, c'est transcendant, c'est différent. Mais c'est en quelque part. Parce que, numéro un, Jésus, dans son humanité, est là. Et son humanité fait partie de l'ordre créé. Donc cette humanité n'est pas omniprésente. De la même manière que la nature divine. Je pourrais dire certaines autres choses, mais on va se limiter. Les anges font partie de l'ordre créé. Les anges ne sont pas omniprésents. Ils sont à un endroit donné, ils doivent se déplacer. Et les anges sont au ciel. Les hommes, les croyants morts, leurs âmes, et un jour, quand le ciel sera sur la terre, nos corps glorifiés, mais en ce moment, les âmes, des âmes justifiées qui nous ont précédés, sont là avec le Père, et ces personnes sauvées ne sont pas partout, ils sont quelque part. Donc, mystérieusement, les amis, dans l'ordre créé quelque part, dans l'univers, si vous voulez, créé quelque part, il y a une demeure où le Dieu qui est partout demeure d'une manière spéciale en un endroit, c'est-à-dire ce qui fait ciel le ciel, c'est que là, le Père choisit pour toujours de manifester continuellement et sans cesse sa gloire de manière palpable et d'y demeurer dans sa gloire manifeste en tant que Père avec son peuple de manière à ce que cet endroit soit un véritable foyer, une demeure. Ou si on est là, on est là avec le Père, jamais absent. C'est chez lui. C'est la demeure familiale du Père. Et Étant cela, c'est merveilleux, il me semble, pour trois raisons qui sont suggérées dans les paroles de notre Sauveur. Premièrement, le ciel est merveilleux en raison de sa permanence. C'est une demeure, ce sera pour vous une demeure définitive. Jésus dit: Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez en moi, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Et le mot demeure est utilisé à bon escient. Il parle de quelque part où on va plus quitter la demeure. Il y a beaucoup de demeures. C'est la fin de la route pour vous, si vous êtes chrétien. C'est le destin final. C'est là où Dieu, dès le départ de l'éternité, c'est là que Dieu vous voulait avec lui dans sa demeure. C'est incroyable, ça. Nous pouvons dire que si vous êtes chrétien, c'est là où vous appartenez. Tant que vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas poser les valises. C'est là le ciel. C'est là la demeure du Père pour vous. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens, et je vous demande de ne pas regarder les passages aujourd'hui, il y en a trop, et écoutez simplement. Le Seigneur nous dit que, Dieu nous dit dans sa parole, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement, ils vont sortir de leur tombeau de la terre. Et ensuite, nous les vivants, si nous sommes vivants à ce moment-là, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, avec les morts qui ressuscitent, sur les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est une demeure permanente. Vous voyez la logique? Dieu nous enlève au ciel et ensuite le ciel avec nous descend sur la terre. C'est comme ça. Parce qu'il nous enlève pour un moment de jugement. Après ce jugement, une fois que les réprouvés sont en enfer, la cité de Dieu avec les croyants descendra sur cette terre renouvelée et changée. Donc c'est merveilleux pour vous, n'est-ce pas, et pour moi, parce que c'est permanent. Deuxièmement, c'est merveilleux parce que c'est une demeure glorieuse. Et vous pouvez comprendre, si c'est la demeure du Père, c'est glorieux. Le psalmiste dit ceci: Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Et nous pouvons comprendre pourquoi. Parce que dans la présence manifeste de Dieu, c'est incroyablement glorieux. Vous vous rappelez de Jacob et son rêve? Il a mis sa tête sur un rocher et il a eu une vision de la part de Dieu, d'une échelle, et les anges descendaient et montaient. Et étonné, il dit ceci. Il dit: Jacob s'éveilla de son sommeil, il dit: Certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit: Ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et ça, c'est seulement la porte. Nous avons lu en l'Apocalypse, n'est-ce pas? Nous avons entendu parler de tonnerre et éclairs, d'un Dieu qui a l'aspect d'une pierre précieuse, entouré d'un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel voulant parler de la miséricorde de l'arche de l'alliance noachite. Quand Dieu dit, je ne vais plus juger le monde avec un déluge. Il est couvert de grâce, couvert de miséricorde, ce Dieu, environné. Et il y a une mer de cristal devant nous et des êtres glorieux et courbés dans sa présence parce qu'il est transcendant, infiniment plus grand que tous. Nous sommes tout petits devant lui et on adore, on admire son immensité, sa gloire, sa bonté, sa perfection. Et l'Apocalypse nous dit, la ville n'a pas besoin ni de soleil ni de lune, la ville céleste, dans ce nouveau monde, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Donc le ciel est glorieux, est formidable, merveilleux, parce que c'est une demeure glorieuse. Juste un verset de plus pour vous donner une petite idée. Jean dit dans sa première épître, bien-aimés, nous sommes maintenant, nous les chrétiens, enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, Jésus-Christ. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Ce verset nous dit que quand le Seigneur reviendra et nous le verrons dans sa gloire manifeste, juste la vue du Christ, une seconde, va vous changer complètement en son image. De sorte que nous puissions dire, et vous vous rappelez, je vous ai donné cette illustration, si votre sanctification, votre changement de ce que vous avez été au moment de votre conversion à ce que vous devez être, et cette distance entre là où je suis et Paris, donc dans ta vie chrétienne, tu fais à peu près cela de chemin dans le changement que vous devez avoir. Le reste d'ici à Paris se fait en un clin d'œil simplement par la vue de Jésus-Christ dans sa gloire manifeste. Ça va vous transformer. Ce que nous serons n'a même pas encore été manifeste, révélé, exposé. Personne ne connaît la gloire qui sera la vôtre. Mais nous savons que quand nous le verrons, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et c'est ce Dieu le Fils, avec le Père, leur gloire, c'est le soleil du ciel. C'est une demeure glorieuse. Quelqu'un dit, ses enfants parlaient de l'année 2080, et il a dit à son petit enfant, oui, mais maman et papa, on sera au ciel déjà à cette époque. Il a lancé cette parole de manière nonchalante, comme ça. Et puis, quelque temps après, il a dit, j'ai dit de manière nonchalante qu'en 2080, je serai au ciel. Nous ne réalisons pas notre destin, notre héritage. La dernière raison pour laquelle c'est glorieux, c'est merveilleux, c'est permanent, c'est glorieux, mais le ciel est aussi merveilleux parce que c'est une demeure d'amour, un monde d'amour. Pensez à la manière dont vous serez accueillis, vous, à qui je parle, la manière dont vous serez accueillis au ciel. Accueillis pour toujours, l'accueil ne va pas changer. Pour vous donner une idée, on peut lire ce passage qui n'est pas ce sujet, mais qui nous donne l'idée. C'est un père prodigue, un fils prodigue qui revient à son père, qui vient à la maison du père, qui revient. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un agneau, pardon, aux doigts et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Le caractère particulier du ciel, c'est pas simplement un endroit où Dieu est, où Dieu se manifeste, où Dieu est glorieux. C'est la maison du Père qui accueille ses enfants dans un amour indescriptible. J'entendis du trône une voix forte qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de vos yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car la première chose ont disparu, et celui qui est assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Un monde d'amour divin pour vous. Et maintenant, et plus courtement, nous devons dire trois autres choses au sujet du paradis. Le premier, qui était très long, c'était que le paradis, c'est la demeure où le Père habite avec vous, ses enfants. Mais deuxièmement, le paradis est une vaste demeure qui héberge beaucoup de gens. Jésus nous dit dans le texte que nous avons lu au verset 2, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si vous allez comprendre le ciel, vous devez comprendre ça, sinon vous n'allez jamais comprendre. Après cela, je regardais des gens en Apocalypse 7, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et ils se tenaient devant le trône et de l'agneau. Je ne sais pas si le Seigneur a ri au-dedans ou pleuré au-dedans le jour où quelqu'un lui a demandé, on le voit en Luc 13, quelqu'un lui dit: Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Vous vous rappelez de cette parabole où le Seigneur invite les gens, un homme invite les gens à un banquet, il y en a ceux qui refusent et disent: Non, je dois assister, mais mon bœuf, je viens d'acheter, ou je viens de me marier, je ne peux pas venir. Et donc il renvoie les serviteurs pour faire venir les estropiés, enfin, toutes sortes de gens pauvres, et n'est-ce pas? Et nous lisons que il dit: Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Le serviteur dit: Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. Et le maître dit à son serviteur: Va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Pourquoi tout cela? Le nombre des demeures chez notre Père est une manifestation de la prodigalité de son amour. Il y a des gens, quand ils donnent une fête pour leur anniversaire, comme ils ont un cœur étroit et qu'ils n'aiment que quelques gens qui sont un peu comme eux, tu es invité à cet anniversaire, cette fête, toi et six autres personnes. Et ça c'est cela, le monde d'amitié de cette personne au cœur étroit. Mais quand notre Père Céleste donne un banquet, Son cœur, chers amis, son cœur est grand et il y a du monde. Il aime une maison remplie. Plus les bûches sur un feu sont nombreux, plus le feu est grand et chaud. Et plus il y a du monde au paradis, plus il y a un terrain pour que le Père montre, manifeste, déverse son amour pour nous, en nous et entre nous. C'est un monde très vaste. Troisièmement, le paradis est une demeure à laquelle vous parviendrez uniquement grâce à l'œuvre de Jésus sur la croix. C'est la demeure du Père avec vous. C'est une demeure vaste avec beaucoup de monde et c'est une demeure auquel vous avez accès seulement par la croix. Jésus dit ceci dans le texte. Il dit, verset 3, donc, pardon, je vais remonter au verset 2, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Si donc je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Jésus parle de s'en aller. Et dans le contexte, quand il parle de s'en aller, il parle de la croix. D'accord? Lui-même, en tant que Dieu homme, il ne peut pas aller au ciel. Il ne peut pas aller au ciel, sauf s'il meurt. Parce qu'il lui faut une humanité glorifiée. Et il a une humanité mortelle à cause de nous. La seule manière de détruire cette mortalité, c'est de détruire la mort par la mort. Il tue le mort, la mort, notre mort, en le subissant, en l'épuisant. Vous ne pourriez jamais, 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 jamais aller dans la demeure du Père. Si Jésus n'était pas allé avant vous, en tant qu'homme, en tant que votre représentant, en tant que votre répondant vis-à-vis de vos péchés, en tant que votre acquitteur de dettes, il dit, je vais vous préparer une place. N'allez pas, ne pensez pas qu'il va poser des rideaux. C'est pas ça. Il y a une affaire morale et grave. Il y a des barrières à faire tomber. Il y a un accès à ouvrir. Et il n'y a que Calvaire qui puisse le faire. Je m'en vais. Oh Seigneur, comment peux-tu parler du Calvaire en disant juste je m'en vais? Quel mot, quel petit mot pour quelle grande œuvre? Je m'en vais vous préparer une place. Il convenait, Hébreux 2, en effet, à celui par qui et pour qui tout existe, Dieu le Père, et qui a conduit beaucoup de fils à la gloire, d'élever à la perfection par la souffrance l'auteur de leur salut. D'élever, je m'en vais, d'élever Jésus par la souffrance. Et Jésus dit ceci, enfin, Hébreux 6, cette espérance du ciel, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide, et elle pénètre au-delà du voile, la barrière, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Et je pense sans doute que le ciel va être encore plus précieux, d'autant plus précieux pour vous, que le prix soit grand pour Jésus. Chaque seconde, chaque gloire dans ce ciel que vous allez vivre, vous aurez été chèrement payé. Quand j'ai amené Nikki à notre maison, notre première maison après notre mariage, on s'est marié en Afrique du Sud. Je l'ai ramenée dans l'avion. J'avais loué un appartement. Et donc, j'allais l'amener dans cette maison pour demeurer ensemble. Sauf que j'étais très pauvre. J'avais vécu plusieurs années en Afrique avec un salaire qui tournait autour de 450 euros par mois. Et je n'avais que un lit. La grande dépense que j'avais faite pour elle, c'était une machine à laver et un sèche-linge. Ça, c'était le gros. Donc, et une petite table ronde avec quatre chaises. Pas de meubles dans l'appartement. Pas de moquette, pas de rideau, pas de jolies serviettes, rien. Pratiquement rien sur le lit. Et donc je l'ai averti. Je ne sais pas si c'était dans l'avion ou quoi, mais bon, ça va être un peu pas très luxueux chez nous, mais on va y arriver. Quand nous avons ouvert la porte le soir, quand nous sommes arrivés à l'appartement était complètement meublé avec de nouveaux draps formidables sur le lit, de nouveaux oreillers. On a ouvert les placards étaient remplis de nourriture. Tout était... On ne s'en revenait pas, c'est l'église qui avait pris connaissance de mon plan un peu bidon d'amener ma femme nouvellement mariée dans un tel endroit et qui nous a fourni. Mais mon problème, c'était que c'était ma pauvreté. Je n'ai pu que faire cela. Heureusement, l'église est intervenue. Mais pour vous et moi, le paradis est préparé. Est préparé. Non pas par une église qui est gentille, mais par une souffrance du Fils de Dieu lui-même au calvaire. La dernière chose que nous devons dire, c'est que le paradis est une demeure auquel vous êtes certain de parvenir si vous êtes en Christ. Regardez le verset 3. Le verset 3 qui nous dit, donc si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Imaginez que ce soit vous à qui cette parole était prononcée ce soir-là, les yeux dans les yeux. Jésus, les yeux dans les yeux, parce que cette parole est autant pour vous. Si je m'en vais, vous préparez une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi pour que là où je suis, vous y soyez. La certitude de cela. La certitude est scellée par la croix, n'est-ce pas? La certitude est scellée par l'intercession de Jésus. Il prie, dans quelques moments après cela, on l'entend prier, si nous sommes là, et il dit, Père, je veux. Et quand le Fils dit, je veux au Père, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. La certitude. Même les anges nous certifient qu'il reviendra nous prendre. Est-ce que vous vous rappelez le jour où il est parti? Il est parti et la Bible nous dit que les disciples étaient là et l'ont regardé aller dans les nuages et sont restés bouche bée à regarder de manière fixe. Et vous vous rappelez de ce qui s'est passé après? Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. et dire, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Même les saints anges nous disent, attendez seulement, ne regardez pas au ciel. Attendez, veillez, il reviendra au son de la trompette. Et ce qui nous émerveille dans cela, c'est que nous ne serons pas embarqués au ciel par un taxi ou un Uber qui va venir de la part du Seigneur nous prendre. Ce serait pas mal, n'est-ce pas? Mais il revient lui-même nous chercher. Et la grandeur de cette mission pour nous prendre, elle est tellement grande que la Bible nous dit ceci. La Bible appelle sa venue la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que quand il viendra au milieu d'une flamme de feu. Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus, parce que pour vous amener, il faut qu'il vous délivre aussi. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force lorsqu'il viendra pour être en ce jour glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. L'application. On termine. Pourquoi est-ce que la Bible nous parle de tout cela concernant le ciel? C'est la demeure du Père. C'est une demeure vaste, un monde très vaste d'amour. C'est une demeure à laquelle on peut aller qu'à la grâce de l'œuvre de Christ. Et c'est une demeure à laquelle nous allons arriver certainement par le retour de Jésus. Pourquoi est-ce que nous avons ça? Et beaucoup plus qui nous est dit, que Dieu nous informe au sujet du ciel. Trois raisons. D'abord parce que nous ne pouvons pas vivre bien maintenant que dans la mesure où nous sommes conscients de ce que Dieu voulait pour nous depuis toujours. Quand je perds de vue le destin final dans sa perfection, j'ai inconsciemment l'idée que le salut, c'est que ce que je vis maintenant. Que ce que Dieu me donne, c'est la vie chrétienne et c'est difficile, n'est-ce pas, parfois. C'est une épreuve. Et si je ne garde pas mes yeux sur la fin, je ne peux pas connaître qui est Dieu vraiment pour moi? Qui est Dieu vraiment pour toi? Vous ne pouvez le voir que dans la finalité. Là où il vous amène et vous place avec lui pour toujours, c'est là où vous comprenez quel est son amour pour vous. Il faut le garder devant tes yeux. Deuxièmement, vous ne pouvez savoir qui vous êtes vous-même que dans la mesure où vous êtes conscient de l'endroit où vous appartenez. Je me souviens quand je suis rentré d'Afrique, ces années en Afrique, et les premières semaines aux États-Unis, je suis devenu pasteur assistant dans une église. Et je me souviens d'un jour où je marchais dehors. Et mon corps était complètement je me sentais comme un étranger complet dans mon propre pays. J'avais envie d'embarquer dans un avion tout de suite et de rentrer en Afrique. La culture américaine, ça ne m'allait plus. Ça ne m'allait plus, je ne pouvais pas. Et j'ai compris que c'est comme ça que je dois être par rapport à ce monde. Parce que je n'appartiens pas à ce monde. Et je ne peux pas savoir qui je suis, à moins de savoir où j'appartiens. Nous savons que quand il viendra, nous allons le ressembler parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Sachez qui vous êtes, qui vous serez un jour, et vous allez commencer à devenir ça de plus en plus. Troisièmement et dernièrement, nous ne pouvons bien regarder les difficultés de la vie ici-bas. Écoutez-moi, vos épreuves, vos chagrins, vos désastres, vous ne pouvez pas les regarder dans la bonne perspective que dans la mesure où vous les regardez à la lumière de la gloire à venir. J'estime, dit Paul, que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée. Deux minutes au ciel, chers chrétiens, chères chrétiennes, et votre cœur sera consolé pour toujours. C'est là le problème, n'est-ce pas, avec nous? Nos désastres, nos chagrins sont trop grands. Parce que nous oublions que c'est juste un clin d'œil. Cette vie sur terre est juste un clin d'œil, c'est parti. Et pendant une éternité qui ne prendra jamais, 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 jamais fin. Plus de deuil, plus de souffrance. Richard Baxter était un puritain qui a écrit un fameux livre sur le ciel et chaque jour il prenait 20 minutes pour ne penser qu'au ciel. Chaque jour, 20 minutes. Je me demande si nous ne devons pas adopter sa méthode. Nous allons chanter. « 384, l'horizon se colore. »